Donc voilà les raisons profondes de l'éclatement de cette crise en 2007-2008, avec, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que la montagne de dettes privées qui tournait entre les mains des banquiers jusqu'en 2007-2008, cette montagne de dettes privées a été endossée par les États pour pouvoir justement éviter un effondrement complet du système économique et financier mondial. Et d'où l'extraordinaire montée de la dette, cette fameuse dette publique, alors ici mesurée pour la France, en rouge c'est en pourcentage de la production mesurée par le fameux indicateur PIB, produit intérieur brut, donc en pourcentage, et en bleu c'est en milliards d'euros. Et alors c'est intéressant de voir l'évolution sur la période que je viens de décrire, c'est-à-dire à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez une montée régulière de l'endettement jusqu'aux années 2000. Vous avez une légère accalmie parce que pendant la période de 1997, 18, 19, 2000, ça s'est arrêté là à peu près, il y a eu une plus forte croissance économique, donc une plus forte rentrée de recettes fiscales et donc une diminution du déficit public et donc de l'endettement. Mais à partir de la fin des années 2000, alors cette fois-ci, ce n'est plus la pente douce, c'est l'explosion de la dette publique, tant en milliards d'euros qu'en pourcentage du PIB, puisqu'en milliards d'euros, on est aux alentours de 1 600 milliards d'euros de dette publique, et en pourcentage du PIB, on est aux alentours de 85-86% actuellement. Et ce qu'il faut expliquer, ce n'est pas simplement l'accélération de la dette à cause de la crise que je viens de décrire, mais c'est expliquer pourquoi depuis déjà 30 ans, on a une montée de cette dette. Et donc là, c'est là où se fait le lien entre ce que je vais vous dire et ce que vous a dit Vincent Grenet il y a une semaine. Est-ce que ça vient d'une augmentation trop forte des dépenses publiques? C'est ce qu'on nous raconte tous les matins et qui justifierait qu'on ne recrute plus un fonctionnaire sur, on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux, on diminue les ressources qui vont aux hôpitaux, aux écoles, à la recherche, etc., etc. C'est faux. C'est faux et au nom des statistiques les plus officielles. Hein, ce sont les rapports officiels qui nous disent non, c'est pas vrai, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. En tout cas, en tendance longue. Mais alors pourquoi l'accumulation de la dette? C'est que dans le même temps, les recettes fiscales ont plus diminué que les dépenses. Et donc vous avez ici, si vous regardez l'écart entre les courbes, il a tendance au fil du temps à s'accroître. Et pourquoi les recettes fiscales rentrent aussi faiblement et ont même tendance à décliner? Eh bien parce que vous avez une double diminution de l'impôt sur le revenu en réduisant le nombre de tranches et en diminuant le taux dans chaque tranche. Et ça dans tous les pays. Et regardez la France de 86 à 2007, j'ai choisi 2007 pour vous montrer juste avant la crise, ce qui se passe juste avant la crise, donc on passe de 65%. Le taux marginal, vous savez, c'est le taux de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu. Donc 65%, 40, Allemagne 53, 47, Belgique 72, 50, Espagne, etc., vous le lisez. Donc, diminution de la fiscalité progressive et donc allègement de la fiscalité sur les ménages les plus riches et les plus aisés. Et donc, c'est toutes les politiques ont tendu vers cet objectif-là. Malheureusement, bon, les gouvernements de droite, évidemment, mais malheureusement aussi, assez souvent, pas toujours, mais assez souvent, certains gouvernements de gauche dans tous ces pays ont fait la même chose. Et la course au moins-disant fiscal s'est aussi révélée pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, où vous avez, donc, dans ces 20 dernières années, une diminution dans tous les pays européens de l'impôt sur les bénéfices de sociétés. Et pour la France, vous voyez le premier chiffre, c'est la première ligne du tableau. Et en plus, un rapport officiel qui a été publié il y a quelques mois a montré, a révélé que le taux officiel est 33%, hein, 33,3%, le taux d'imposition sur les sociétés. En fait, les entreprises les plus importantes paient un taux effectif d'environ 8, pour à peine 8%, en vertu, enfin au nom de l'optimisation fiscale, comme ils disent, c'est-à-dire à la possibilité d'échapper par tous les biais à l'imposition en bénéficiant de toutes les niches fiscales, de toutes les cadeaux qui ont été faits, accordés progressivement et qui se sont empilés les uns sur les autres. Et vous savez que par exemple, on estime ce qu'on appelle les niches fiscales, c'est-à-dire les exonérations pour tel ou tel motif, on les estime dans une fourchette entre 75 milliards d'euros et 150 milliards d'euros par an. C'est pour l'État français, hein. Niche fiscale en France, si on a une définition étroite de niche fiscale ou si on a une définition un peu plus large, donc c'est à peu près une fourchette du sel pour nous, mais prenons simplement le bas de la fourchette, donc 75 milliards de niche fiscale, c'est-à-dire c'est 25 milliards de plus que ce qu'on paie en intérêt sur la dette. Donc il se chiffre aux alentours de 50 milliards par an d'intérêt. Et donc, on a 75 milliards de niches fiscales. Si on rabotait ces niches fiscales véritablement, déjà, on pourrait éponger tous les intérêts versés aux créanciers. Donc, c'est ça qui explique donc l'évolution en tendance. Je vous remontre cette courbe. L'évolution en tendance depuis déjà une trentaine d'années de l'endettement public, l'endettement qui n'est que la somme de tous les déficits annuels qui ont été votés par le Parlement avec des budgets donc en déséquilibre à cause non pas de l'explosion des dépenses publiques, mais au contraire d'une raréfaction des rentrées fiscales. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est que ces phénomènes ne sont plus cachés. C'est-à-dire qu'on a des rapports officiels qui le disent clairement. Par exemple, l'année dernière, M. Gilles Carrez, qui est un député UMP, et qui a présenté au nom de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale un rapport dans lequel on trouve les chiffres là que vous voyez là. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu ces cadeaux fiscaux qui ont été faits soit aux entreprises, soit aux ménages les plus riches, on aurait eu un budget qui est quasiment à l'équilibre, en tout cas avant la période de l'éclatement de la crise. Et donc, les cadeaux fiscaux que vous voyez mesurés ici par l'écart entre le déficit réel, celui qu'on a constaté réellement, qui est la courbe du bas ici, et le déficit qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu ces cadeaux fiscaux, donc la courbe passe au-dessus de zéro, c'est-à-dire qu'on est un excédent. Sans les cadeaux fiscaux, on aurait eu un budget excédentaire et non pas déficitaire. Et donc ça, c'est M. Carrez, au nom de l'Assemblée nationale, qui nous le dit. Et ce qu'il nous dit conforte deux autres rapports qui ont été présentés par l'INSEE et par la Cour des comptes, dont je vous ai mis un petit extrait sur l'origine de la dette. Donc, Champsaur et Coty, qui sont l'ancien et l'actuel directeur de l'INSEE, ont produit un rapport l'année dernière, où il est écrit en toutes lettres, et j'ai mis des guillemets, en l'absence de baisse des prélèvements, c'est-à-dire des impôts, la dette publique serait à un niveau 20 points de moins par rapport au PIB qu'elle ne l'est aujourd'hui, générant ainsi une économie de charges d'intérêt de 1,5 point de PIB, 0,5%. Et en 10 ans, à cause de tous ces cadeaux, en 10 ans, il y a eu 400 milliards de recettes fiscales perdues. 400 milliards qui sont partis dans la poche de ceux qui ont bénéficié. À vous rendre compte, c'est du tour de passe-passe. Un, on diminue les impôts sur les riches et grandes sociétés. Donc ça génère, pour ceux qui bénéficient de ces cadeaux, une épargne supplémentaire. Que font-ils de cette épargne? Ils n'achètent pas un troisième, un quatrième, un 4x4. Aussitôt cet argent est placé et vient nourrir la financiarisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, le plus fort de café, c'est qu'ils vont acheter les bons du trésor que les États sont obligés de mettre en circulation pour combler les déficits. Donc, on leur baisse les impôts avec cet argent économisé. Ils achètent les bons du trésor pour éponger le déficit que la baisse des impôts a créé. C'est ça qui est hallucinant. Et lorsqu'on met ça en évidence, on se rend compte à quel point à quel niveau est le cynisme des gouvernements qui nous disent que c'est parce qu'on vit au-dessus de nos moyens. qu'il y a une dette. Donc ça, c'est pas une invention des gauchistes ou des subversifs de la société, ce sont les rapports officiels qui nous le disent, et donc le graphique précédent complété par cet extrait du rapport de Carès, hein, entre 2000 et 2009, le budget général de l'État aurait perdu entre 120 et 119 milliards d'euros de recettes fiscales, environ les deux tiers étendus au coût net des mesures nouvelles, les baisses d'impôts, et le tiers restant à des transferts de recettes liés à la décentralisation, c'est-à-dire transferts aux collectivités locales. Et au mois de juin dernier, troisième rapport, celui de la Cour des comptes, qui dit explicitement que la crise explique une augmentation de l'endettement, mais simplement 38% de ses déficits. Et le reste, c'est dû largement à une nature dite structurelle, bon ça c'est un langage d'expert, pour dire ce sont les baisses d'impôts précédemment étudiées. Donc voilà l'origine de la dette.